Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'importance du réveil. Nous arrivons à l'étude numéro 2 et le titre pour aujourd'hui sera « La promesse du réveil ». La promesse du réveil. Dans la Sainte Parole de Dieu, il y a toutes sortes de promesses concernant les besoins et toutes les circonstances de nos vies. Mais aucune n'est plus positive que celle du réveil. Regardons quelques-unes d'entre elles. La promesse du réveil est conditionnelle. La Sainte Bible nous dit, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui se trouve dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît, veuillez noter le plus possible les citations bibliques, afin que vous puissiez vérifier qu'on ne vous dit pas quelque chose qui viendrait d'une philosophie personnelle, même religieuse. Nous devons rester dans la vérité biblique. Là, il est dit, dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, que si mon peuple qui est appelé de mon nom, si ce peuple s'humilie et qu'il prie, et qu'il cherche ma face, et qu'il revienne de ses mauvaises voies, eh bien, moi aussi, Yahvé l'Éternel, votre Dieu, j'écouterai des cieux, et je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leurs pays. J'ai pris cela dans une de mes versions allemandes, mais ça rejoint tout à fait, rassurez-vous, votre Bible française. Il y a donc là une condition, non pas pour les pécheurs, attention, ça ne concerne pas les pécheurs, mais une condition qui est destinée uniquement au peuple de Dieu. Premièrement, il est dit « humiliez-vous ». En effet, nous avons besoin d'authentique humilité, celle qui permet de nous voir nous-mêmes comme Dieu nous voit. Le drame dans l'église de Laodicée, ils étaient misérables, pauvres, aveugles et nus, mais inconscients, car ils se vantaient de s'être enrichis et de n'avoir besoin de rien. Apocalypse, chapitre 3, verset 17. Cela décrit bien ceux qui, dans l'Église aujourd'hui, fanfaronne et enseigne la doctrine de l'abondance absolue. L'église de Laodicée prétendait avoir quelque chose qu'elle ne possédait pas, vivant en sorte dans une illusion de sécurité. Cette église était rétrograde, sans même le savoir. Je crois qu'énormément de chrétiens aujourd'hui sont rétrogrades sans même le savoir. On leur a enseigné que l'argent, une bonne santé, le succès professionnel et l'abondance des biens matériels sont la véritable preuve de spiritualité. On peut dire, ils se revêtent d'habits somptueux, portant la griffe des meilleurs couturiers. Et pourtant Dieu dit, vous êtes nus. Donc sans le savoir, les prédicateurs sont rétrogrades, tout comme les membres des églises, car beaucoup ont rétrogradé avec eux. On ne prêche plus la vérité sur la repentance, la sanctification, la vie crucifiée, le sacrifice, la sainteté, la joie au milieu de la souffrance, le jugement à venir, les œuvres de Satan et de ses démons, ainsi que l'enfer qui attend le rétrograde. Même dans beaucoup d'églises évangéliques, on ne prêche plus cela. Nous nous vantons de ne pas prêcher l'enfer et nous nous moquons de ceux qui le font. Mais ce furent des prédicateurs du feu de l'enfer, tels que George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Finney, William Booth et John Livingston, qui furent dans le passé des instruments du réveil. John Livingston parla pendant 1 heure et demie sous la pluie, et lorsque l'auditoire commença à donner des signes d'impatience dus au froid et à l'humidité, il s'écria « Avez-vous un abri sûr qui vous protégera de la colère divine ?» Poursuivant ainsi sa prédication pendant encore 1 heure, et cela à ciel ouvert, croyez-le ou pas, 500 âmes ont été sauvées. Je crois que le dernier réveil sera tellement immense qu'aucun bâtiment ne pourra contenir les multitudes. Nous devrons revenir à la prédication en plein air comme le faisaient les grands revivalistes britanniques, s'adressant parfois même à 50 000 personnes. Et cela, écoutez bien, sans les haut-parleurs ou aucun système de sonorisation, Dieu lui-même amplifiait leur voix, et cela à tel point qu'ils ont pu être entendus de très loin. On dit que les chants des foules à l'écoute de John Whitefield se faisaient entendre à plus de 3 kilomètres. Deuxièmement, il est dit « Priez ». Dieu dit « Si mon peuple prie, oui, tous les grands réveils sont les résultats de la prière. » Souvent, il s'agissait de ce que Dieu, on peut dire, à ce que Dieu, par exemple, fendent carrément les cieux et qu'ils descendent vers nous. Avant de prêcher le message où 500 personnes ont été sauvées, Livingston avait prié toute la nuit. Imaginez un peu cela. C'est pas de nos jours que c'est une chose courante. Troisièmement, il est dit « Cherchez ma face. Ceux qui me cherchent me trouvent. » C'est ce que dit le Seigneur. Faisons donc demi-tour et cherchons Dieu comme un homme à la recherche d'or précieux. Il est dit dans Jérémie chapitre 29 au verset 13 « Et vous me chercherez, et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » Le pécheur à la recherche du Seigneur et du Sauveur, le pécheur qui le cherche, eh bien, il le rencontrera forcément. Quatrièmement, il est dit « Revenez de vos mauvaises voies ». Voilà l'appel qu'adresse le Saint-Esprit à l'Église rétrograde, tiède, et ayant abandonné son premier amour. Dans l'Ancien Testament, Dieu était l'époux de l'infidèle Israël. Aujourd'hui, il est l'époux d'une église rétrograde qui aime son époux uniquement pour ce qu'il a à lui offrir, tels que la prospérité, les dons de l'Esprit Saint, la paix, la communion avec d'autres chrétiens, une bonne santé surtout, et tant d'autres choses. Mais elle ne l'aime pas pour lui-même. Donc, elle ressemble à cette femme qui est plus amoureuse de sa bague de fiançailles, qui est un véritable diamant, que de l'homme qui la lui a offerte. Malgré l'état dans lequel elle se trouve, si elle revient à lui, il promet de l'entendre. Il promet de lui pardonner son péché et de guérir son pays. C'est ce que Dieu fait. Le réveil, c'est le remède des relations coupées entre Dieu et l'homme. C'est la repentance et le pardon. Il prépare l'homme à rencontrer Dieu. Le réveil charismatique a fait que l'homme accepte Dieu et le réveil venant du ciel peut rendre l'homme acceptable à Dieu. Dans Osée, chapitre 6, versets 1 et 2, le prophète s'écrie « Venez et retournons à l'Éternel, car lui a déchiré et il nous guérira. Lui, l'Éternel, a frappé et il bandera nos plaies. Dans deux jours, il nous fera vivre. Au troisième jour, il nous mettra même debout et nous vivrons devant sa face, selon l'original. Tout cela veut dire vivre, exciter, jouir de la vie, revivre, guérir, être en bonne santé, raviver, rafraîchir, reconstruire et restaurer la vie. Pourquoi le prophète dit-il dans deux jours? Eh bien, dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 8, nous lisons « Mais n'ignorez pas cette chose, mes bien-aimés, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme mille ans, et mille ans, c'est comme un jour. Quand Dieu créa le monde, il a mis six jours. Il se reposa le septième jour et le consacra comme étant un jour de repos, établissant ainsi pour toujours son propre modèle, travailler 6 jours, se reposer 1 jour. Tout cela, dans les derniers temps que nous vivons, va, hélas, être aboli, ainsi que les jours de Noël et de Pâques, et beaucoup d'autres choses. Ça va vite, ça dégringole. Le président américain vient de voter une loi pour copier le président français Hollande, pour que ceux qui pratiquent la sodomie et les abominations, comme au temps de Sodome et Gomorre, puissent même se marier et avoir tous les droits de ceux qui étaient considérés autrefois comme normaux, c'est-à-dire mari et femme. Et mari et femme sera bientôt aboli. On ne se mariera plus. Ça va très vite, ça dégringole. Mais ils seront de plus en plus confrontés avec des choses terribles. Les attentats. On coupe maintenant les têtes, même en Europe. On pratique des choses horribles tous les jours. Et même en plein jour, il y en a qui utilisent des engins de guerre tels que des kalachnikovs et autres. Pourquoi le prophète dit-il dans 2 jours? Eh bien, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, verset 8, vous pouvez lire « Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimée, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. » En effet, voyez-vous, quand Dieu a créé le monde, il a mis 6 jours. Je vous l'ai déjà dit. Et à la place de voter des lois pour abolir les dimanches, pour que personne puisse aller se recueillir dans une église, Satan est rusé et travaille dur, car il sait que son temps touche à sa fin. Donc, on propose de travailler le dimanche, quitte de payer ceux qui travaillent un peu plus cher pour leur faire envie d'aider à abolir le jour du Seigneur. Oui, le Seigneur nous dit dans cette deuxième épître de Pierre, que pour lui, un jour est comme 1000 ans, vous avez entendu, comme 1000 ans. Et nous savons que depuis Adam se sont écoulés plus de 6000 ans. Entre Adam et la naissance de Christ, il y a environ 4000 ans, et depuis la naissance de Christ jusqu'à nos jours, il y en aura bientôt plus de 2000. Il est très probable que le temps de la grâce soit terminé et que nous ayons déjà commencé la dispensation des jugements. Les grandes tribulations devraient durer entre 3 ans et demi et 7 années selon les savants de la Bible. Osée dit qu'après 2 jours, il nous fera vivre. Nous sommes donc à la veille, ou pas très loin, de l'accomplissement de cette promesse. Et ensuite, Osée dit, le troisième jour, il nous mettra debout. C'est ce grand réveil venant du Saint-Esprit qui nous prépare à être mis debout. En hébreu, le mot utilisé veut dire accomplir, confirmer, justifier, élever, établir et fortifier. Chers amis, si nous devons régner sur ce monde pendant le millénium, l'Église a sûrement besoin d'être mise puissamment debout, car actuellement, elle n'est pas en état de gouverner et de régner, ni avec Christ, ni dans l'Esprit Saint. Le réveil est donc absolument nécessaire. Osée dit que nous ne pourrons faire l'expérience de ce grand réveil que en grandissant dans la connaissance du Seigneur. Son action, ses desseins, ses projets préordonnés sont déterminés et prévus comme l'aube fait suite à la nuit. Il viendra à nous comme la pluie de l'arrière-saison arrose la terre. Osée chapitre 6, verset 3. Il est parlé de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Permettez-moi d'expliquer cette expression. Israël a toujours eu deux pluies par année, celle de la première saison et celle de l'arrière-saison. Premièrement, la pluie de la première saison, appelée aussi première pluie, tombait après la récolte des derniers fruits de l'été. Elle commençait en général après Yom Kippour et la fête des tabernacles et durait jusqu'en novembre et décembre. Elle servait à briser le sol et le ramollir en vue des semences printanières. Car autrefois, les champs étaient labourés avec des charrues primitives qui étaient tirées par des bœufs, parfois même par des hommes. Notez un roi, donc dans l'Ancien Testament, un roi, chapitre 19, verset 19. Aussi était-il nécessaire pour les agriculteurs que le sol soit tout de même un peu ramolli par les pluies. Et deuxièmement, la pluie de l'arrière-saison était bien plus abondante. Certains experts disent qu'elle était même 7 fois plus abondante. Elle tombait au printemps et en été pour faire mûrir le grain et les fruits en vue d'une grande récolte. La première pluie d'Israël peut être comparée à l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte pour le premier réveil de l'Église. Jésus a ordonné à ses disciples de demeurer à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de puissance d'en haut, selon Saint Luc, chapitre 24, verset 49. Jésus savait que sans l'onction du Saint-Esprit, la pluie de la première saison, il serait inutile que les disciples aillent planter la semence de l'Évangile. Les cœur du peuple de Dieu était bien trop endurci. Ils avaient crucifié Jésus. Oui, ils avaient goûté du sang et rien ne pourrait les arrêter désormais. Il est donc nécessaire que le Saint-Esprit soit répandu puissamment dans le cœur du peuple de Jérusalem et par la suite dans tous les cœurs à travers le monde. Si seulement nous voulions bien nous arrêter, jeûner, prier, et là, nous verrions l'Esprit de Dieu dans nos vies et dans ce que nous faisons pour lui. Nous le verrions préparer le terrain et attendrir les cœurs pour qu'ils soient en état de recevoir la bonne semence. C'est un fait certain que lorsque Dieu se servait des revivalistes dans certains lieux, le réveil se manifestait avant même que ses serviteurs ou servantes arrivent sur place pour prêcher. On disait par exemple de Charles Finet que Dieu le précédait souvent, si bien que à son arrivée, il trouvait déjà les personnes pleurant et implorant miséricorde. Parfois, la conviction de péché fut telle que les pleurs l'obligèrent momentanément à suspendre la prédication. Charles Finet disait qu'il était impossible de travailler efficacement à l'œuvre de Dieu sans l'aide de l'Esprit Saint. C'est parce que le Saint-Esprit, il est celui qui envoie la pluie. Vous avez compris, nous parlons de la pluie spirituelle. Au jour de la Pentecôte, ils étaient 120 dans la chambre haute. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit selon la promesse de Dieu dans Zacharie, chapitre 10, verset 1. Il est dit « Demandez à l'Éternel de la pluie au temps de la pluie de la dernière saison. L'Éternel fera des éclairs et il leur donnera des ondées de pluie à chacun de l'herbe dans son champ. » Donc à chacun de l'herbe. Là le mot hébreu est ici yish, yish, homme. Dieu nous dit là qu'il enverra sa pluie sur chacune des personnes se trouvant dans le champ. Alléluia. C'est un peu comme le jour de la Pentecôte, quand il leur apparut, vous savez, il est dit qu'il leur était apparu des langues divisées comme du feu, des flammes de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Selon Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 3 et 4, aucun ne fut oublié. La dernière effusion sera plus abondante que la pluie de la première saison et de celle de la dernière saison. Elle sera semblable à ces deux pluies réunies. Et nous connaîtrons et nous nous attacherons connaître l'Éternel. Sa sortie, elle est préparée comme l'aube du jour, et il viendra à nous, comme la pluie de la première et de la dernière saison, arrosant la terre. Osée chapitre 6, verset 3, selon la version allemande et anglaise. Ou, selon la description de Joël, qui se trouve dans Joël, au chapitre 2, verset 23, où il est dit, « Et vous, fils de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donne la première pluie dans sa mesure, et il fait descendre sur vous la première et la dernière pluie au commencement de la saison. » Cela se passera à l'heure prévue, pas une minute trop tôt et pas une minute trop tard, et jamais l'Esprit de Dieu n'aura été répandu de pareille manière sur le monde, que ce soit pour répandre la bénédiction ou le jugement. Dieu a promis d'envoyer la pluie. Ne nous décourageons pas, mais attendons cette pluie, car croyez-moi, elle viendra. Je crois que par la prière, nous pouvons la faire descendre, alors que nous déchirons les cieux par notre intercession. Cela viendra. C'est absolument certain. Et c'est déjà préparé. Comme la pluie se trouve dans le nuage, ainsi la pluie du Saint-Esprit se trouve-t-elle dans la nuée de la gloire de Dieu qui couvre l'Église, qui la recouvre. C'est donc à nous, bien entendu, d'intercéder. Evan ou Evan Roberts s'étant déjà retiré du monde, fut un jour invité pour une réunion spéciale par l'église où étaient tombées les premières pluies du réveil. À ce moment-là, tout ne fut plus qu'un souvenir, hélas. Et en se levant, Evan Roberts a dit à l'auditoire que les nuages contenant la pluie du réveil se trouvaient toujours encore au-dessus de leur tête et que c'était à eux de pomper ou d'aspirer cette eau. Il leur promit que s'ils la pompaient au moyen de la prière, le Saint-Esprit les visiterait puissamment une fois encore. Que chacun d'entre nous prenne bien garde aux paroles de ce grand évangéliste afin de connaître une nouvelle et grande visitation du Saint-Esprit. Provoquons-la donc au moyen des pompes, de la prière et du jeûne. Chers amis, le Saint-Esprit veut que le peuple de Dieu puisse garder dans son cœur la vision du réveil, car il est dit « Faute de vision, le peuple meurt » Proverbe, chapitre 29, verset 18. Lorsque Jésus était sur terre, il gardait en permanence en son cœur la volonté du Père pour sa vie, il voyait ce que même ses disciples ne voyaient pas. À Samarie, il dit, « Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les campagnes, car elles sont déjà blanches pour la moisson. » Saint Jean, chapitre 4, verset 35. Le réveil, c'est rentrer la grande moisson des âmes. Jésus n'a jamais quitté Israël, et malgré cela, il voyait la grande moisson des nations déployée devant lui. Cette vision s'est étendue jusqu'à notre époque et à travers le monde entier, comme le prophétisait Joël. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute sa chair. Joël, chapitre 2, verset 28. Le vrai réveil nous communiquera toujours le fardeau des nations. Chaque réveil du passé a toujours envoyé le peuple de Dieu dans le champ missionnaire, sur place ou dans des pays lointains, et cela parce que la véritable vision n'est jamais limitée par les circonstances. Elle grandit en même temps que la maturité spirituelle d'un individu. Le réveil, c'est la moisson, et ils ne peuvent jamais être séparés. Le royaume de Dieu s'empare toujours des âmes, au contact des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont loin, qui sont touchées par la puissance et par la gloire de Dieu et ayant vécu eux-mêmes un réveil personnel. Quand vous voyez le roi, eh bien vous voyez les nations. Cette réalité, elle est merveilleusement exprimée dans le livre des Ésaïe, au chapitre 33, verset 17. Tes yeux verront le roi dans sa beauté, et ils contempleront le pays lointain. Il est donc impossible d'être touché par Dieu dans un réveil sans être concerné par les nations et les multitudes d'âmes perdues et qui sont vouées à l'enfer. Ceux qui me disent ne pas avoir de fardeau pour les nations et être très heureux que Dieu ne les ait jamais appelés personnellement ne se rendent absolument pas compte de la nature du cœur qu'ils révèlent. Ce n'est sûrement pas le cœur de Jésus. Sans aucun doute, ils ne pourront jamais réaliser à quel point ils sont éloignés du cœur de Dieu, et je crains très fort que leur expérience de Dieu ne soit pas très vraie, très profonde, qu'elle soit plutôt superficielle. Dans le livre de Zacharie, là, il est dit, après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui ont fait de vous leur proie. Ce verset est particulièrement significatif. Le mot employé dans l'original pour fait de vous leur proie, cela veut dire de piller et de dévaliser. Seul l'amour de Dieu, fruit d'une profonde rencontre personnelle avec lui peut vous permettre d'aller vers ceux qui nous ont pillés et dévalisés, et même de les aimer sans réserve. Cela nous serait impossible sans le réveil de nos âmes. Beaucoup parmi les grands missionnaires sont devenus des martyrs là où ils avaient été appelés. Ils y ont laissé leur vie et aimons ceux-là même qui les avaient pillés, qui les avaient dévalisés et même parfois tués. Oui, chers amis, le réveil n'est jamais à bon marché. Oh non! Comment cela leur est-il possible? Parce qu'ils gardaient dans leur cœur cette vérité éternelle, que le sang des martyrs est une semence pour l'Église. Ils savaient que personne ne pouvait leur ôter la vie sans que Dieu ne le permette et que lui-même les élevait au rang des martyrs. Ils savaient que leur souffrance et le sang versé porteraient le fruit de toute une moisson d'âmes. Le réveil n'est jamais à bon marché. Son prix ne pourra jamais être compté en dollars ou en euros, ni au moyen d'une calculatrice. Dieu seul connaît la puissance et la portée de chaque réveil. L'apôtre Pierre l'exprimait ainsi dans Actes chapitre 2 verset 39. Car à vous est la promesse et à vos enfants, et même à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. Actes chapitre 2 verset 39. Voilà donc à quel point est grande sa portée. Lorsque le fameux Charles Finney commençait à prêcher en Amérique, la nation tout entière ne comprenait que 200 000 membres d'Église. Or, 10 années plus tard, il y avait plus de 3 millions de chrétiens nés de nouveau qui s'étaient joints aux Églises et qui servaient Dieu avec fidélité. Charles Finney n'était pas le seul à les avoir gagnés pour Christ, mais ceux qu'il avait touchés en ont touché d'autres, faisant ainsi boule de neige. Ça, c'est la conséquence du réveil. Je sais que quand ma vie touchera à la fin, c'est bientôt, car à 88 ans, on ne peut pas encore aller 30 ans. Je sais que j'aurai donc franchi le seuil d'un jour nouveau et glorieux. J'y trouverai des âmes dont la présence sera due à quelqu'un que j'aurai d'une façon ou d'une autre influencé pour Dieu. Nous aurons des enfants, des petits-enfants, et des arrière-petits-enfants spirituels qui nous béniront et qui, nous, qui avons été les instruments de Dieu, eh bien, nous serons également bénis. Oui, celui ou celle qui propage l'Évangile. Aujourd'hui, il y a plus de femmes qui le font. Eh bien, ces sœurs-là peuvent garder dans leur cœur en permanence la vision du réveil. Oui, je veux boire et boire encore ce nectar céleste et de le faire partager à d'autres. C'est là la vision et le fardeau du véritable missionnaire. Ne perdez jamais en aucun cas cette vision. Elle vous portera dans les moments les plus durs et les plus difficiles. Elle permettra de persévérer alors que d'autres abandonnent déjà. Gardez donc dans votre cœur cette vision qu'avait Jésus quand il a dit « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Il faut que les amène, que je les amène elles aussi. » Johannes, Saint Jean, chapitre 10, verset 16. Le pasteur George Chambers, pionnier de la Pentecôte, utilisé par Dieu pour apporter le réveil, il était prédicateur mennonite à Ontario, quand, pour la première fois de sa vie, le Saint-Esprit fut répandu au Canada. Dans son récit, il raconte que l'église mennonite à Kitchener avait invité le pasteur Ward de Winnipeg à venir chez eux pour présider une convention de Nouvel An. Cette convention devait continuer jusqu'en mars, et cela sans interruption. Et beaucoup de ces chers mennonites ont été remplis du Saint-Esprit. L'un d'eux fut l'ancien Salomon Eby, fondateur de l'œuvre. Ce réveil bouleversa la communauté et produisit dans les cœurs beaucoup de remises en question. Une grande séparation se créa lors de la conférence suivante dans l'église en question. Ceux des responsables qui cherchaient cette expérience et ne l'avaient pas reçue sont devenus incrédules. Or, dans cette convention, l'auteur, c'est-à-dire le frère Chambers, avait un certain nombre d'autres personnes avec lui, et il prit position pour Dieu à l'égard du baptême dans le Saint-Esprit. Or, un jour, qu'ils étaient tous assis dans l'église de Kitchener, alors qu'ils chantaient un premier cantique, voici que deux colombes sont entrées par la fenêtre. Ces deux colombes ont fait le tour de toute l'église, se sont posées sur le balcon, puis après avoir recommencé de voler au-dessus de leur tête, sortirent par la même fenêtre. À ce moment-là, Salomon Eby se mit debout et il dit « Frères et sœurs, voyez ces colombes, ne pouvons-nous pas être ensemble maintenant dans la paix ? Nos mennonites aimaient le Seigneur, mais on leur avait enseigné que les dons du Saint-Esprit se sont arrêtés après la constitution de l'Église. Oui, il y a eu un grand réveil, il faut bien le dire, parmi les mennonites et les anabaptistes. À cette époque-là, Dieu avait déjà commencé d'envoyer son Esprit Saint sur eux par l'intermédiaire de son serviteur Gérald d'Erstein, et ce réveil continua toujours. Pourtant, il n'a pas encore atteint sa pleine dimension. Il y a des centaines, des milliers de bons Mennonites qui aiment le Seigneur et qui veulent entrer dans une plus grande dimension de sa vie. Leur niveau spirituel ne les satisfait pas. Ils savent dans leur cœur, comme les darbistes et les frères Large, que Dieu veut leur donner encore davantage. Quand ils voient leur jeûne rétrograder et même de retourner dans le monde, ils crient, ils pleurent, ils disent Dieu, ils lui demandent plus que ce qu'ils ont reçu actuellement, et certains reçoivent en secret le baptême dans le Saint-Esprit, mais par crainte d'être rejetés et persécutés, ils n'osent pas payer le prix en s'engageant à 100% pour Dieu. Mais un de ces jours, le Saint-Esprit les visitera puissamment, comme cela a été le cas au début du siècle, et cette fois-ci, ils ne le rejetteront plus jamais. Ils payeront le prix et se consacreront entièrement. Chers amis, en terminant cette étude, j'aimerais demander à chacun d'entre vous de garder précieusement dans son cœur cette vision pour nos dénominations. Duncan Campbell, instrument de Dieu pour le réveil dans les îles Hébrides, il disait « C'est une chose de désirer le réveil, mais c'en est une autre de demeurer confiant que ce désir sera comblé. » Oui, chers amis, notre âme, elle s'attend à toi, ô Yahvé l'Éternel. Psaume 33, verset 20. Chers amis, nous voulons terminer simplement par la prière. Prions. Père Céleste, ô notre Père Céleste, toi qui es notre recours et notre force en toute nécessité, spécialement lorsque la dernière épreuve et la mort frappent à la porte, donne-nous maintenant de célébrer dignement la mémoire des dernières heures de Jésus avec ses disciples et du repas sacré dans la chambre haute. Oui, accorde-nous de sentir sa présence actuelle en esprit, qu'elle nous console, qu'elle nous fortifie et qu'elle réalise notre communion fraternelle. Préserve-nous d'oublier le Sauveur dans ses souffrances, qu'il apparaisse au regard de nos âmes pour nous entraîner à toi, que nos cœurs, à leur tour, puissent s'emplir, se remplir de son esprit de sacrifice pour croître et croître encore à sa ressemblance. Oublions ainsi ce qui est en arrière, et tendons courageusement en avant au but. Rends-nous semblables à lui, à Jésus. aussi par notre calme et par notre paix en face du péril et même de la mort. Entends-nous, ô Dieu notre Père et notre Rédempteur. Amen. Amen. Et chers amis, merci de tout cœur pour l'importance que vous semblez donner à écouter la sainte parole de Dieu, et que vous soyez bénis dans vos églises, là où vous vous réunissez, que ce soit dans une simple chapelle ou dans une cathédrale, que le Seigneur vous inonde de son amour. À bientôt à nouveau, Dieu voulant, peut-être à demain matin. Au revoir.